Vous êtes diplômé de l'école de journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de la SBL de Livre en Livre. Et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour des enfants défavorisés. Alors Gaëlle, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces deux histoires que nous venons d'entendre?
Oui. Alors, Les Trois Psychochons est un conte anglais du XVIIIe siècle qui a été publié pour la première fois en 1843 dans les Nursery Rhymes et Nursery Tales, donc en français, rimes et contes de fées de chambre d'enfants, de James Orcad Halliwell Phillips.
Ah oui, dis donc, c'est pas évident ça.
Alors, on va résumer à James Halliwell.
Vous faites bien.
Alors, James Halliwell aurait recueilli ce conte oral, qui est typique du folklore anglo-saxon, auprès d'une nourrice. C'est le conte que nous venons d'entendre, la première version. Sauf que vous ne l'avez pas fait rôtir, Jean-Louis. Dans votre fin, il revient plaider son innocence.
Il en avait déjà assez vécu, pauvre loup.
Je le précise parce qu'il y a eu tellement de versions par la suite.
Ah oui, moi je connais surtout celui de Disney, évidemment.
Oui, c'est normal. On doit surtout la popularité de ce conte et sa grande diffusion à l'adaptation en dessin animé qui a été faite par les studios Disney en 1933. Alors, dans les pays francophones, ce sont vraiment eux qui ont fait connaître le conte des Trois Petits Cochons. Depuis, il a été des centaines de fois revisité. Rien qu'en France, on compte 51 versions de ce conte répertorié. Parfois, les cochons sont mangés par le loup, parfois ils se sauvent. Dans certaines versions, les cochons partent construire leur maison parce qu'ils s'ennuient à la ferme. Dans d'autres, la maman cochon est trop pauvre pour s'occuper d'eux. Dans d'autres pays, certaines versions mettent en scène d'autres animaux. On se trouve le jar, le coq, etc. Et puis, le conte a également été parodié, détourné, comme c'est un peu le cas ici dans votre deuxième partie d'histoire, Jean-Louis, où le loup tente de rétablir la vérité de son point de vue. Cette partie de réhabilitation est inspirée du livre « La vérité sur l'affaire des trois petits cochons » de John Seska. Bref, Les Trois Petits Cochons, c'est une histoire toute simple qui plaît aux enfants par son style de narration répétitif et par sa morale sur l'autonomie et la prudence et qui donc n'a pas fini de faire couler de l'encre.
Mais revenons à la version de Disney, si vous le voulez bien. Ce sont ces studios qui nous ont fait connaître cette belle histoire, mais pas qu'en Europe alors.
Non, en effet, grâce à Disney, le conte va même connaître un succès planétaire. Alors, le court-métrage sort en 1933, comme je le disais tout à l'heure. C'est le premier dessin animé en couleur. Il va obtenir l'Oscar du meilleur court-métrage. Et sa chanson « Qui a peur du grand méchant loup, c'est pas nous » de Frank Churchill devient un véritable hit.
Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir? Qui craint le grand méchant loup? Méchant loup, grand loup noir, qui craint le grand méchant loup?
Aux États-Unis, le dessin animé sort en pleine dépression américaine. La chanson apporte donc une note d'humour qui est la bienvenue en cette époque difficile.
Dites, alors on parle beaucoup de Trois Petits Cochons, mais le loup. Le loup, c'est aussi un personnage fort de nos contes. Alors qui a peur du grand méchant loup, Gaël?
Eh bien, ça va dépendre des époques. Le loup, effectivement, ici, il est un peu tourné en ridicule. Mais ça n'a pas toujours été la caricature qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'Antiquité, le loup hante déjà la mythologie grecque et latine. Il incarne le mal et la sauvagerie. Mais il peut aussi devenir le protecteur ou la mère nourrice.
Là, vous faites référence à la louve de Rémus et Romulus.
Voilà, exactement. Alors, jusqu'au Moyen-Âge, il continue d'être surtout un stéréotype du mal pour, évidemment, une population rurale qui est très en prise à toutes sortes de croyances. Et dans les contes de tradition orale, ces monstres permettent d'exorciser les peurs. À la Renaissance, donc époque ultra-religieuse, c'est encore pire, le loup est même associé à Satan. Et d'ailleurs, longtemps après que le feu des bûchers soit définitivement éteint, il a cette connotation diabolique. Vient ensuite le XVIIe siècle, c'est l'époque des contes écrits, des fables, des pamphlets. Le loup, comme beaucoup d'autres animaux d'ailleurs, il vient servir les morales de Charles Perrault ou des frères Grimm par exemple. Il est le plus souvent le méchant de l'histoire, l'inconnu dont il faut se méfier ou encore le prédateur sexuel, comme dans Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. Alors là, je pense aux fables ou aux fameuses Mazarines qui sont publiées sous la Fronde et qui prennent pour cible le cardinal Mazarin, le ministre de Louis XIV. Mazarin est comparé au loup à cause de sa tyrannie et l'abus de pouvoir dont il fait preuve. On arrive ensuite à la fin du XVIIIe siècle avec la fameuse affaire de la bête du Gévaudan qui tue de nombreux hommes, femmes, enfants. Pendant 3 ans, des meurtres vont être commis dans la région du Gévaudan.
Oui, les anciennes Lozère, Ardèche et Cantal.
Voilà. La description que font tous les témoins est celle d'une bête avec une très grosse tête, des flancs rougeâtres, une bande noire tout au long du dos, une queue très touffue, des pattes larges munies de grandes griffes. Alors d'après ces descriptions, les hommes apparentent alors la bête à un loup. Ce qui est bizarre, c'est que le monstre laisse derrière lui des cadavres déchiquetés, parfois décapités. Bon, un loup, en général, ne décapite pas et ne déshabille pas ses proies. Mais dans un contexte où l'ignorance se mêle au mysticisme, ça paraît pas trop étrange au début. Bon, finalement, on comprendra que ces meurtres ont la signature d'un serial killer et non du féroce loup du Gévaudan.
Ça rassure. Mais ça n'est pas la réputation du loup.
Non. Alors finalement, il faudra attendre l'essor des sciences expérimentales des 19e et 20e siècles pour que les hommes aient enfin une vision du monde animal plus réaliste. On observe évidemment davantage la nature. Alors le loup perd un peu de son aspect terrifiant. Il devient d'ailleurs un animal en voie de disparition qu'il faut protéger. Et on en fait même un animal sympathique qui vit en meute, qui a le sens de la famille, qui se nourrit d'autres bêtes, mais certainement pas des humains, parce qu'il les craint. Ce sont les époques du Livre de la Jungle, de Kipling, où une meute de loups adopte même un petit humain, Mowgli, et le siècle de Cro-Blanc.
Il est donc enfin réhabilité, on aime le loup.
Et oui, et aujourd'hui, alors on a vraiment plus du tout peur de lui, même on le moque, on le caricature, la littérature de jeunesse ou le cinéma présente même le loup comme un animal peureux, poltron, bête, ou même sentimentale. Dans un dessin animé remake des Trois Petits Cochons, Tex Avery pousse même la parodie jusqu'à donner au loup les traits de Hitler. Donc c'est évidemment une redoutable arme de propagande antifasciste.
Alors on comprend bien comment le loup a retrouvé ses galons, mais qu'est-ce qui explique cet engouement pour le cochon, l'animal à la base plutôt mal aimé, si je puis dire? Comment expliquer qu'on ait ces trois petits cochons puants en odeur de sainteté?
C'est vrai que le cochon est plutôt un animal mal aimé. Hérodote disait de lui qu'il était un animal immonde donnant lieu à des tabous. Alors je cite, il prend son plaisir dans la fange et le fumier. Sexualité, fécondité, goinfrerie, saleté, en fait il représente tous les excès de l'avalage à l'évacuation. Son pied fourchu évoque le diable et l'iconographie du Moyen-Âge l'associe même à la femme lubrique qui le chevauche. Pourtant, petit à petit, ce petit cochon est devenu un animal très sympathique. Dans les contes, puis plus récemment, dans les albums et les romans contemporains de la littérature de jeunesse notamment. Alors de la même manière que nous avons réhabilité le loup Jean-Louis, je vous propose de faire de même avec nos trois petits cochons.
Ah.
D'abord, vous serez surpris d'apprendre que le cochon ne sent pas mauvais du tout. Il peut apprendre à se promener au bout d'une laisse.
On dit qu'il est même très affectueux.
Exactement. Marrant. Et alors, par la drôlerie de sa silhouette, il apporte dans les contes une connotation humoristique qui éloigne un peu l'écueil de la mièvrerie. Je pense aux petits lapins, aux petits mignons oursons, aux chatons, etc. Il incarne, par anthropomorphisme, dans les œuvres destinées à la jeunesse, l'esprit d'enfance et la joie de vivre. Et son caractère sympathique facilite l'identification des petits. Dans une cour de ferme, il est aimé des autres animaux. C'est le joyeux Dri qui entraîne les autres dans des jeux facétieux. Alors je pense à Babe, Porcinet dans Winnie l'ourson, et bien sûr aux trois héros de notre histoire. Le cochon est bien devenu un des héros des histoires de notre enfance et de nos enfants.
Merci Gaëlle, en tout cas, pour nous avoir dévoilé cet amour que l'on porte en définitive au loup et au cochon.
Merci Jean-Louis.
La morale de l'histoire.
L'histoire des trois petits cochons présente trois porcelets qui parlent et se comportent comme des humains. Ce conte est très apprécié par les petits. Sa structure simple et répétitive les charme. Ils se réjouissent à l'avance à l'idée des maisons soufflées. Et la maison qu'ils se bâtissent leur parle car elle est une métaphore de l'autonomie. Mais surtout à travers ces cochons ressemblant à des humains, l'histoire leur enseigne de nombreuses leçons. On retiendra que le travail acharné et la persévérance sont payants à la fin. Les deux premiers cochons étaient paresseux et ils ne voulaient pas travailler dur. Ils ont donc construit leur maison très facilement, ce qui causera leur perte. Mais le troisième cochon est plus clairvoyant et prend du temps et des efforts pour construire la maison en briques. Ensuite, il se montre plus malin que le loup en devançant à chaque fois ses plans. C'est donc son travail acharné et son intelligence qu'il a finalement sauvé. Choisir ses priorités est une autre leçon qui peut être tirée de la version de Disney cette fois. Les deux premiers cochons ne comprennent pas l'importance de bien construire une maison, et une fois celle-ci construite, ils sont plus soucieux de jouer et de danser. Cela nous rappelle d'ailleurs une autre histoire. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la fable de la cigale et la fourmi. Mais je voudrais laisser le mot de la fin aux enfants.